Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qui l'engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 18 décembre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous avons consacré un article sur l'accueil chaleureux de l'Iran réservé à des millions d'immigrants depuis plus de 4 décennies. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les chefs des 3 pouvoirs iraniens insistent sur la nécessité de traiter les émeutiers sur la base de la justice. La capacité d'enrichissement d'uranium en Iran a pu que doubler. Et puis les ministres des Affaires étrangères iraniens et nicaraguayens se rencontrent ce dimanche à Téhéran. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les chefs des 3 branches de pouvoir de la République islamique d'Iran, à savoir exécutif, législative et judiciaire, ont souligné la nécessité de traiter avec les auteurs impliqués dans les récentes émeutes soutenues par l'étranger, arrêtés en détention sur la base de la loi et de la charia. Lors de la réunion régulière d'hier samedi, les chefs des 3 branches du pouvoir iranien, organisée par le président Sayed Ebrahim Raisi dans l'enceinte présidentielle, ont échangé leurs points de vue sur les questions les plus importantes du pays. Le président Raisi, le président du Parlement Mohammad Borrell Golibov et le chef du pouvoir judiciaire Olam Hossein Mohseni Ejei ont également souligné que le 7e plan quinquennal de développement socio-économique et culturel et le projet de loi de finances du prochain exercice, projet de loi de finances 2023, devraient être soumis en temps voulu au Parlement. Ils ont en outre souligné la nécessité de respecter la justice, les lois et la charia, autrement dit la loi islamique, dans les procédures de la traduction en justice des fauteurs de troubles impliqués dans les récentes émeutes soutenues par l'étranger. Messieurs Raisi, Golibov et Ejei ont également appelé tous les responsables gouvernementaux à faire tout leur possible pour renforcer la confiance des gens et améliorer leur bien-être avec les plans et les politiques productives. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, participe à la conférence Bagdad 2 en Jordanie. Le chef de la diplomatie iranienne se rendra demain, 19 décembre, en Jordanie pour participer à la conférence Bagdad 2. Selon l'IRNA, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, se rendra à Amman, la capitale de la Jordanie, pour participer à la conférence Bagdad 2. Après avoir tenu la conférence de Bagdad en août 2021, Amman, la capitale de la Jordanie, va accueillir un sommet régional sur l'Irak le 20 décembre. L'Iran, la Turquie et un certain nombre de pays arabes, dont l'Arabie saoudite, participeront à cette conférence. Les ministres des Affaires étrangères iraniens et nicaraguayens se rencontrent à Téhéran. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du Nicaragua se sont rencontrés ce matin, 18 décembre, à Téhéran. Selon l'IRNA, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré ce dimanche matin son homologue nicaraguayen, Denis Ronaldo Moncada, aux locaux du ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran. Les deux très hauts diplomates s'étaient déjà rencontrés à New York en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré samedi, 17 décembre, que le taux d'enrichissement de l'Iran avait atteint plus du double de toute l'histoire de cette industrie grâce au plan d'action stratégique contre les sanctions anti-iraniennes. Conformément à la mise en œuvre de la loi d'action stratégique pour lever les sanctions et protéger les intérêts de la nation iranienne, approuvée par le Parlement iranien, la République islamique d'Iran a mis fin à la surveillance extra-sécuritaire et à l'application volontaire du protocole additionnel le 23 février 2021, a fait savoir le vice-président de la République islamique d'Iran, Mohammad Eslami. Un document complet pour le développement de l'industrie et la mise en place de capacités nationales a été légalisé en fonction duquel les plans de l'Organisation de l'énergie atomique seront poursuivis, a déclaré le haut responsable. Il a souligné que la production d'électricité par les centrales nucléaires a apporté des avantages économiques considérables à la République islamique. L'énergie nucléaire et la production d'électricité atomique représentent de grandes économies pour le pays et sont efficaces pour réduire la consommation de combustibles fossiles et non renouvelables et offrir des solutions aux problèmes environnementaux, a-t-il ajouté, affirmant que la prise en compte de cette question aidera au développement des compétences dans le domaine nucléaire et à fournir une assistance dans d'autres domaines tels que la médecine et l'agriculture. La prise en compte du budget destiné à cet organisme est l'une de nos demandes au gouvernement et au Parlement, a-t-il précisé. Les avancées nucléaires sont réalisées en réponse au retrait unilatéral des États-Unis en 2018 de l'accord multilatéral avec l'Iran signé en 2015 et après une année de retenue stratégique et après l'échec de la partie européenne d'honorer leurs engagements vis-à-vis de l'Iran liés au pacte et de compenser la violation US. Téhéran a souligné à plusieurs reprises que son programme nucléaire y a des fins civiles et pacifiques. L'Iran nomme un nouvel ambassadeur en Afghanistan. Hassan Kazemiromi a été nommé le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran en Afghanistan. Selon l'IRNA, depuis le début du 13e gouvernement dirigé par Ebrahim Raisi, Kazemiromi a été le représentant spécial du président pour les affaires afghanes. Le diplomate a été le premier ambassadeur d'Iran en Irak après la chute du régime bassiste Saddam. Ravagé par les guerres, le pays de 38 millions d'habitants peut faire face à l'une des pires crises humanitaires sur la planète, selon les Nations unies. La situation n'a fait qu'empirer quand les versements de milliards de dollars d'aides étrangères qui soutenaient l'économie afghane pendant des décennies ont soudainement été interrompus lors du retrait irresponsable des États-Unis du pays. Les États-Unis n'ont pas l'intention de réduire la pression des sanctions sur les dirigeants talibans et de débloquer les milliards de dollars d'or, d'investissements et de réserves de devises étrangères afghanes gelées aux États-Unis après la prise de pouvoir par le groupe, malgré la pression des partis humanitaires et d'autres personnes qui estiment que le coût pourrait être l'effondrement de l'économie afghane. Pour l'Iran, le rôle des voisins et des interactions régionales pour aider à établir la paix et la stabilité en Afghanistan est indéniable. L'Iran est un acteur clé dans le règlement de la crise afghane et pour laquelle il peut jouer un rôle décisif, ont reconnu plusieurs commentateurs. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'Iran accueille chaleureusement des millions de migrants depuis plus de 4 décennies. La République islamique d'Iran, qui a ouvert ses bras aux immigrants au cours des dernières décennies, a fait face aux sanctions les plus sévères de l'Occident et en même temps à l'afflux d'immigrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile dus aux politiques interventionnistes des États-Unis et de leurs alliés autour de l'Iran. Selon l'IRNA, depuis de nombreuses années, en plus d'accueillir une large population de réfugiés et d'immigrants afghans, l'Iran accueille également des immigrants et des réfugiés irakiens. La première vague de migration des Irakiens vers l'Iran remonte à 1980, lorsque Saddam Hussein a pris ses fonctions de président de l'Irak en 1979 et le début des conflits armés entre le parti Baath au pouvoir en Irak et le gouvernement iranien. Un grand nombre des Irakiens d'origine iranienne vivant en Irak ont été expulsés de ce pays et renvoyés aux frontières iraniennes en 1980. La deuxième vague de migration de réfugiés irakiens vers l'Iran a débuté après les événements de l'intifada de Chabaniya en 1991 et le début des conflits entre les partis politiques chiites et le gouvernement au pouvoir dans les villes du sud de l'Irak. Les statistiques publiées indiquent que le nombre total de ces personnes était de 500 000. Pourtant, le nombre de réfugiés irakiens en Iran a considérablement diminué au fil du temps et les statistiques montrent qu'en 2002, le nombre de ces personnes avait atteint 206 000. Avec la chute du gouvernement d'Ashraf Ghani le 15 août 2021, la quatrième vague de réfugiés afghans vers d'autres pays, dont l'Iran, a commencé. Leur nombre atteint plus de 5 millions de personnes en Iran. La République islamique d'Iran, qui a ouvert ses bras à des millions d'immigrants de différents pays, subit les sanctions les plus sévères depuis 4 décennies, suite au silence des organisations internationales et des institutions des droits de l'homme. La pression des sanctions, qui a eu un impact négatif non seulement sur la vie et les moyens de subsistance des Iraniens, mais aussi sur la vie des immigrés. Jusqu'à présent, les pays occidentaux n'ont pas franchi une étape importante pour aider l'Iran à mieux gérer les immigrés, malgré leurs prétentions à mener des actions humanitaires dans le monde. Au contraire, malgré la présence de plusieurs millions de personnes déplacées et d'immigrants en Iran, même ces dernières années, les pays occidentaux ont renforcé les sanctions contre l'Iran. La Journée internationale des migrants a lieu le 18 décembre de chaque année. Le nombre estimé de migrants internationaux a augmenté au cours des 5 dernières décennies. Actuellement, environ 281 millions de personnes sont des migrants internationaux vivant dans un pays autre que leur pays d'origine. Fin 2021, 59,1 millions de personnes étaient des déplacés internes, 55 millions en 2020. La violence et les conflits ont été à l'origine de 53,2 millions de déplacements, tandis que 5,9 millions étaient dus à des catastrophes. La journée de migrants a été proclamée par l'Assemblée générale le 4 décembre 2000, résolution ARES 55-93. Elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a rapporté l'ONU.
We'll be right back. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du débat. En effet, après la finalisation de l'envoi d'un nouveau système de missiles à longue portée Patriot américaine à l'Ukraine, évidemment, la Russie n'est pas restée les bras croisés et a déployé son système de missiles intercontinental Yars dans une région du centre du pays. Alors, qu'en sera-t-il des agissements américains surtout et de l'axe US OTAN en Ukraine dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine? À quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines et les mois à venir concernant cette crise russo-ukrainienne qui impacte évidemment non seulement la vie des Ukrainiens, les Russes, mais également la vie des milliers d'Européens et d'Américains? Bien sûr, nous allons évoquer toutes ces questions avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Finalisation des plans US pour l'envoi du système de défense aérienne à longue portée Patriot en Ukraine. La Russie a déployé le missile balistique intercontinental Yars dans une région au centre du pays. À la veille de la journée des forces de missiles stratégiques de la Russie, le ministère russe de la Défense a partagé jeudi 15 décembre une vidéo de l'installation du missile balistique intercontinental Yars dans la région de Kalouga, située à 150 km au sud-ouest de Moscou. L'importance de cette opération réside dans le fait que le missile sera en service de combat comme prévu, a affirmé Alexei Skolov, commandant de la formation du missile Kozelsky. Il a également annoncé en sus l'arrivée prochaine d'un autre lot d'armes et de missiles nucléaires qui permettra d'accomplir toute tâche stratégique. La décision de Moscou fait suite à la publication des informations selon lesquelles l'administration Biden a finalisé des plans pour envoyer le système de défense aérienne à longue portée Patriot en Ukraine pour contenir les opérations russes. Avertissant les pays occidentaux des conséquences de leur soutien indéfectible à l'Ukraine, aussi bien au niveau militaire et économique que sur le plan de renseignement depuis le début de la guerre en février 2022, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les armes envoyées à Kiev finissaient par être saisies et détruites. À cet égard, le président russe Vladimir Poutine a critiqué l'Union européenne pour avoir autorisé Washington à l'utiliser comme un subordonné, de telle sorte que même des responsables de l'Union européenne ont confirmé que la politique américaine conduisait à la désindustrialisation de l'Europe. Le chef du Kremlin décrit l'approche de l'Union européenne par rapport au prix du carburant comme une folie, soulignant que la Russie chercherait des partenaires plus prometteurs que les Européens et augmenterait l'approvisionnement en gaz vers l'Est.
De retour sur le plateau, alors nous sommes en ligne avec Bernard Cornu, politologue, qui est avec nous par Skype, et également Luc Michel, géopoliticien. Je vous dis bonjour, messieurs. Je commence avec vous, monsieur Cornu, si vous voulez bien, qui est avec nous par Skype. Merci de nous avoir accordé votre temps pour ce débat, pour cette émission du jour. Alors, concernant les agissements américains, ces aides militaires qui coûtent des milliers et des milliards de dollars pour les Américains, pour le gouvernement américain à l'Ukraine, sous prétexte soi-disant de soutenir l'Ukraine dans cette crise. Dans un premier temps, à votre avis, quel est vraiment l'objectif réel des États-Unis quant à l'approvisionnement et des aides militaires qu'ils contribuent à l'Ukraine?
Mais quand vous dites États-Unis, il faut d'abord dire les industries de l'armement, le complexe militaro-industriel des États-Unis, qui, lui, a intérêt à vendre des armes, à vendre des stocks, à renouveler ses stocks, et donc à soutenir cette politique du gouvernement des États-Unis qui soutient, et aussi, il faut évoquer aussi que tout ceci se fait à crédit, avec des bons du Trésor américain, des dollars imprimés, et donc au détriment de l'inflation du monde et de la richesse du monde. Ce ne sont pas les citoyens américains qui payent, puisqu'ils n'ont pas énormément d'impôts, sauf dans des catégories très particulières. Donc ceci aggrave la dette publique des États-Unis au détriment de l'équilibre financier du monde. Donc cette situation très particulière, unique aux États-Unis et depuis longtemps, depuis les accords de Bretton Woods et surtout la fin de la garantie du dollar contre de l'or, cette politique folle financière, on doit éclairer les citoyens européens là-dessus et bien montrer que ceci est, toute cette politique américaine est au détriment de l'intérêt général du monde entier.
Merci pour vos explications, Monsieur Cornu. Restez en ligne. Alors, Luc Michel, géopoliticien, vous êtes avec nous par téléphone depuis Bruxelles. Merci d'être là. Monsieur Michel, vous, à votre avis, quel est l'objectif réel de ces taxes US-OTAN, on pourrait dire, quant à ces aides militaires à l'Ukraine?
Écoutez, l'objectif des États-Unis n'est pas le même que les objectifs de l'OTAN. Le but des Américains, c'est de faire durer jusqu'à son paroxysme la guerre en Ukraine. Il faut savoir quelque chose dans l'histoire. Partout, la guerre détruit les peuples, les économies et les pays, mais pas aux États-Unis. Les États-Unis, dans toutes les guerres, ils font des bénéfices. Même pendant la guerre du Vietnam, qui est une guerre perdue par les États-Unis, le CAC 40 de la bourse de New York a monté de 40%. Aujourd'hui, ce que veulent les Américains, ça commence à être révélé par la presse américaine. La presse américaine, contrairement à la presse de l'OTAN en Europe, elle dit la vérité. On sait que Poutine va gagner la guerre. On parle même d'une offensive sur Kiev au mois de janvier. Mais ce que les Américains veulent, c'est que la guerre se termine en Ukraine avec un maximum de dégâts, mais sans paix. C'est-à-dire que les hostilités s'arrêtent. C'est une solution à la coréenne. En Corée, il n'y a jamais eu de paix. Il y a eu un armistice, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de cessation des hostilités. Il y a une zone militarisée. Et ça fait 50 ans que les États-Unis et les deux Corées sont en état de guerre. C'est ce que les Américains veulent. Ils veulent que la Russie devienne une gigantesque Corée, séparée par un état de guerre de l'Europe. L'Europe qui est la principale concurrente économique des États-Unis qui s'agit de détruire. Donc pour le moment, l'Américaine réussit ses buts de guerre, même si la Russie elle-même réussit ses propres buts. C'est une politique cynique et redoutable. Et ce que Medvedev, le président russe, a appelé les idiots irresponsables de Bruxelles, ils marchent dans le piège américain sans s'en rendre compte. Hier, ils ont encore adopté un train de sanctions qui va encore plus pénaliser l'industrie européenne.
Luc Michel, vous avez évoqué cette politique de guerre américaine, donc par exemple dans les deux Corées, par exemple en ce qui concerne notamment maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Mais quels sont les intérêts américains dans divers domaines en fait, intérêts économiques, politiques, diplomatiques, sociaux? Quels sont les réels intérêts et les réelles intentions des Américains, enfin du gouvernement américain, de faire perpétrer la guerre et de la continuer en fait à travers le monde entier dans divers continents?
Le premier but, c'est de garder la domination mondiale, puisqu'ils considèrent qu'ils ont gagné la guerre froide et qu'ils sont la seule superpuissance depuis 1991. Donc c'est le diviser pour régner. Plus le monde est chaotique, ils ont une théorie de la géostratégie du chaos, plus le monde est chaotique, plus ils sont gagnants. La deuxième, évidemment, c'est de maintenir la dollarisation de l'économie mondiale, ce qu'on appelle la globalisation mais des USA. La troisième chose, évidemment, c'est l'intérêt particulier du lobby militaro-industriel que dénonçait déjà le président Eisenhower en 1953. Ce sont des gens qui vivent de la guerre. Ils vendent des armes et ces armes, ils les vendent en endettant les pays. L'Ukraine, par exemple, pour peu que l'Ukraine survive dans les 5 prochaines années, elle est en d'été pour plusieurs décennies. C'est cela que Zelensky a fait. Donc les Américains, ce sont des vautours qui s'engraissent sur le malheur et le peuple et les guerres qu'ils imposent au peuple du monde. Depuis que les États-Unis existent, depuis le début du 19e siècle, ils n'ont eu que 5 années où ils n'ont pas été en guerre. 5 années sur 2 siècles, c'est cela la réalité.
Merci pour vos explications. Alors Bernard Cornu, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Michel en ce qui concerne cette politique de guerre des Américains et des intérêts qu'ils profitent en fait de faire perdurer la guerre partout dans le monde? En l'occurrence, le sujet, c'est l'Ukraine et la Russie.
Oui, tout à fait. Et on a bien raison de distinguer, quand vous dites intérêts américains, les intérêts du complexe militaro-industriel, du complexe financier, et le gouvernement qui fait sans doute juste la politique qui lui est proposée par les lobbies d'influence des milieux de l'armement et des milieux financiers, qui a été, comme l'a rappelé mon collègue Michel, qui a été rappelé par le président Eisenhower dans un discours fameux au moment de son départ. Donc je crois qu'on l'a vu avec les présidents Bush. Le père Bush était un pétrolier, avait été chef de la CIA. Et ce que j'ai déjà dit, qu'il faut redire, c'est que dans ces guerres qui détruisent le reste du monde, dans des régions parfois pauvres, mais prometteuses, les Américains eux-mêmes ne souffrent pas. Le gouvernement n'est pas obligé d'augmenter leurs impôts. Il emprunte, il fait des dollars, il imprime des dollars, il émet des bons du Trésor, il augmente sa dette. Et ce n'est pas pour l'instant les Américains qui souffrent. Et il n'y a pas eu de combat sur la terre américaine elle-même. Il y a eu quelques attentats, effectivement, notamment le 11 septembre, dans des circonstances d'ailleurs qu'on peut mettre en doute, enfin, on peut encore voir s'il n'y a pas eu des manipulations dans tout ceci. Mais le gouvernement, c'est pour ça qu'il y a peu de réactions. Il y a eu des réactions au moment de la guerre du Vietnam, parce qu'il y avait quand même, il y a eu quand même, je crois, dans les 61 000 morts. Parmi les militaires américains, donc les familles et la population ont commencé à protester. Mais maintenant que c'est une guerre de missiles et de contre-missiles, il y a peu de dégâts dans le personnel des pays occidentaux, des pays personnels américains qui participent à soutenir ces guerres. Et on l'avait vu aussi, je connais très bien l'Irak et l'Iran, on l'a vu aussi dans cette guerre, longue guerre Irak-Iran qui a été provoquée et entretenue des deux côtés.
Merci pour vos explications, Monsieur Cornu. Alors, Luc Michel, à votre avis, quelles seront les réactions, bien sûr, logiques de la Russie? Alors, la première réaction au déploiement de Patriotes, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs réactions, a été le déploiement de Yars. Quelles seront les prochaines réactions et les prochaines décisions prises par la partie russe, en fait, aux agissements américains et aux agissements de l'ex-US OTAN en Ukraine?
Écoutez, elles sont de trois natures. Tout d'abord, il y a les gestes stratégiques, donc le déploiement de nouvelles armes face aux armes occidentales. La seconde chose, ça a été annoncé par l'ancien président Medvedev hier. Il a déclaré que dorénavant, les systèmes patriotes étaient des cibles légitimes pour la Russie lorsqu'ils étaient déployés en Ukraine et qu'ils seraient frappés en priorité. La troisième, évidemment, réaction pour la Russie, ça doit être obligatoirement de gagner la guerre. Contrairement à ce que la propagande de l'OTAN en France particulièrement fait croire, la Russie est en train de gagner la guerre. Et on annonce d'ailleurs au mois de janvier des offensives d'hiver qui vont probablement achever de désarmer l'Ukraine. Le président Zelensky mène une course à l'abîme dans laquelle il fait de gigantesques bénéfices par la corruption. L'Ukraine probablement n'existera plus en compte des cas d'ici 5 ans. Les voisins de l'Ukraine, c'est-à-dire les pays qui avaient des provinces en Ukraine avant 1918 et avant 1919, la Hongrie, la Roumanie et la Pologne, commencent d'ailleurs à exprimer leur vue. La Pologne sur la zone de Lviv, la Hongrie sur la Transcarpathie et la Roumanie, évidemment, sur les anciennes provinces roumaines qui étaient sur le territoire de l'actuelle Ukraine. Il faut donc constater que l'Ukraine va probablement disparaître en cet état. Ces territoires vont être partagés envers les territoires russes qui étaient russes avant 1917, les territoires qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie avant 1918, les territoires qui appartenaient à la Pologne et à la Roumanie avant 1939.
Merci pour vos explications. Et alors, Luc Michel, il y a aussi une question d'énergie. La Russie a annoncé clairement qu'elle va approvisionner en gaz, et, enfin en énergie et ressources naturelles, l'Est, l'axe de l'Est et pas les pays européens. C'est l'hiver, il fait froid, on sait qu'il y a une crise énergétique énorme en Europe, parmi les pays européens. Comment donc pourrait-on interpréter ces prises de position de l'Union européenne alors que cette Union européenne se trouve empêtrée en fait dans cette crise?
On peut dire, comme Medvedev l'a dit, que ce sont des idiots irresponsables. En déclenchant la guerre des sanctions, la guerre du gaz, la guerre du pétrole, ils sont en train de détruire leurs économies. Voilà la réalité. Mais c'est le second but de guerre des Américains. C'est creuser un fossé qui ne sera plus comblable entre la Russie et l'Europe, qui pourtant ont des économies qui sont complémentaires. C'est détourner la Russie de l'Europe. La Russie va se tourner vers l'Inde, vers la Chine, vers les républiques d'Asie centrale. Et malheureusement, c'est le but de guerre des Américains. Pendant ce temps-là, les Américains, enfin, ont des tarifs vendables pour leur gaz et leur pétrole de schiste. C'est cela la réalité. Mais les Européens sont des idiots irresponsables qui, en suivant l'OTAN, sont en train de faire la guerre des Américains contre les intérêts fondamentaux de leur propre peuple.
Merci pour vos explications, Luc Michel. Alors, Bernard Cornu, vous, à votre avis, comment pourrait-on interpréter cette crise économique? Comment pourrait-on interpréter cette crise, mais comment pourrait-on interpréter la réaction des pays européens alors qu'ils ont besoin plus que jamais de l'énergie russe, des coopérations mutuelles et des relations étroites avec la partie russe? Mais évidemment et clairement, les pays européens ont choisi de suivre aveuglément les États-Unis dans leur politique, surtout de guerre.
Disons, l'Europe est en crise, mais elle est en crise temporaire sur ses problèmes d'énergie parce que, comme dans tout l'Occident, il y avait beaucoup de gaspillage sur le gaz dans des bâtiments mal chauffés et avec des voitures qui n'avaient qu'une seule personne, 0,2, dans toute l'Europe et aux États-Unis. Donc, beaucoup de gaspillage. En termes économiques, on peut dire que l'énergie en Occident a une très grande valeur d'usage. On pourrait encore tripler le prix des carburants, doubler ou tripler le prix du gaz tel qu'il est facturé chez les gens. Ils ont des niveaux de détail et les gens supporteraient encore. Mais il y aurait une réaction pour mieux isoler les logements, un peu plus vite qu'on le fait maintenant, pour changer le système de mobilité urbaine, développer les transports publics, développer le covoiturage. Tout ceci nécessite une adaptation et c'est effectivement le prix des énergies qui force un peu cette adaptation qui est possible et nécessaire. Et en fait, en termes généraux, nous avons vécu en Occident avec une énergie pas chère parce que le pétrole et le gaz sont des ressources fossiles qui coûtent peu cher à produire par rapport à leur valeur d'usage, c'est-à-dire le prix que les gens sont prêts à payer pour ce service. Et donc, nous avons laissé enrichir les pays pétroliers, les pétromonarchies non démocratiques, que ce soit dans toute la péninsule arabique. Et ceci nous retombe dessus parce que ces politiques... Ces régimes politiques non démocratiques sont capables de toutes les turpitudes et de venir bachicher, payer des hauts fonctionnaires européens. On l'a vu récemment que les choses ne sont pas encore jugées, donc il faut encore dire que c'est des accusations présumées. Mais ceci est très important. La seule possibilité à terme, ce sont de taxer beaucoup plus fortement les énergies pour qu'elle soit plus chère pour les individus et recycler cet argent public des taxes pour aider ceux qui en ont plus besoin, c'est-à-dire certains agriculteurs, certains ruraux qui ont besoin de leur voiture pour aller à leur travail ou aller voir leur famille. Et donc, c'est le seul moyen de faire baisser le pouvoir d'achat des pétromonarchies non démocratiques et d'avoir un co-développement du monde entier. Il faut que les énergies soient taxées beaucoup plus fortement. Chaque fois que les énergies sont pas chères, on a des constructions mal faites, mal isolées. On a des systèmes de transport qui ont des trafics, qui ont plein d'embouteillages, trop de véhicules privés mal remplis. Et donc, c'est cette politique générale qu'il faut appliquer dans le monde entier et appliquer l'argent public qui viendrait dans les pays consommateurs pour aider les plus démunis à améliorer leur logement, améliorer leur système de mobilité. Voilà, c'est cette 40 années ou 50 années d'énergie pas chère dont on paye maintenant les conséquences.
Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Bernard Cornu en ce qui concerne cette crise énergétique et les solutions à s'en sortir?
Oui, mais il y manque une chose, c'est le coût du libéralisme. Ce qu'on paye en Europe, c'est le libéralisme ultralibéral qui est appliqué à tous les niveaux de l'Europe. Je vais vous prendre le cas. Il y a une crise de l'électricité en Europe. Cette crise, normalement, elle n'aurait pas dû être liée à la crise du pétrole et du gaz. Mais en Europe, on a indexé le gaz, l'électricité sur les prix du gaz, ce qui était une folie. Une multinationale comme Engie, qui est dominante en France et en Belgique, elle a fait par exemple 5 milliards d'euros de bénéfices pour la seule Belgique en 2022. Qu'est-ce qui se passe évidemment? Je vais vous prendre mon cas. Le coût de l'électricité dans mes locaux a augmenté de 600% depuis le mois d'octobre. C'est insupportable pour les populations européennes. Ça, c'est le prix du libéralisme. Ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Et ça n'a rien à voir avec les coûts de la guerre américaine en Ukraine. C'est simplement l'irresponsabilité des politiciens libéraux de Bruxelles.
Merci pour vos explications. Alors Bernard Cornu, un dernier mot en ce qui concerne cette crise. Les solutions à s'en sortir, mais également les politiques peut-être qu'il faudrait que l'Union européenne apprenne en fait à prendre pour mettre fin à ce conflit ou au moins mettre fin à son suivisme états-unien.
Monsieur Luc Michel a raison de dire que ceci est le résultat d'une politique libérale. Ce n'est pas contradictoire à ce que je dis, c'est effectivement une politique qui aurait une vision de long terme en mettant des fortes taxes sur l'énergie pour financer à la fois la transition énergétique, le meilleur isolement des transports, de la meilleure isolation des bâtiments, bien plus qu'on l'a fait depuis dans les années 50, 60, 70, meilleur transport public, plus de covoiturage, des systèmes de mobilité très différents. Effectivement, ceci était une politique libérale et il faut faire autre chose, avoir une politique de planification à long terme qui non seulement regarde ce qui se passe dans nos pays, mais au niveau du monde. Le monde a intérêt à taxer l'énergie et à répartir la ressource publique obtenue ici et là pour compenser ceux qui ont des difficultés, c'est-à-dire les ruraux qui, dans certains pays, vont chercher du bois, les ruraux qui ont besoin de chauffer des serres ou de faire marcher des pompes, etc. Donc ceci, dans le cadre d'une meilleure planification énergétique et environnementale, on peut avoir une politique très différente. Mais il y a d'inertie, c'est long de changer le système de bâtiment, c'est long de changer le système de mobilité, mais ceci effectivement était une erreur du libéralisme de laisser l'énergie à des prix très bas et en jouant seulement le jeu du marché.
Merci beaucoup. Alors Luc Michel, géopoliticien, Bernard Cornu, politologue, était avec nous pour ce débat concernant le conflit russo-ukrainien. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Vous pourriez également revoir toutes les émissions, également cette émission, sur notre site web à l'adresse french.frepresse.tv.ir. Merci à vous, à toutes et à tous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de l'émission Afrique Économie, une émission dans laquelle nous allons réviser en bref les importantes informations et évolutions économiques qui se sont passées durant la semaine dernière dans le continent africain. Restez avec nous. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 15 décembre 2022 à Abidjan le document de stratégie pays de Maurice pour la période 2022-2027 et la mise en œuvre des domaines prioritaires de développement identifiés. Outre renforcer la résilience économique en améliorant l'environnement des affaires et la production à forte valeur ajoutée, la banque prévoit de concentrer ses efforts de développement dans des infrastructures durables et la protection de l'environnement. Le principal objectif du nouveau document de stratégie pays est de soutenir les ambitions de Maurice de devenir un pays à revenus élevés d'ici 2030, et ce, grâce à une économie plus productive, durable, inclusive et résiliente, en libérant davantage le plein potentiel du pays dans les domaines de l'agriculture, des technologies de l'information et de la communication, de la finance et de l'économie bleue pour remonter la chaîne de valeur, a déclaré Leila Mokadem, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l'Afrique australe. L'appui de la banque au premier domaine prioritaire, qui porte sur la résilience et la diversification économique, vise à promouvoir le développement du secteur privé, et ce afin de favoriser et bâtir une économie mauricienne plus productive, durable, inclusive et résiliente. La banque va soutenir les principales réformes économiques, réglementaires et institutionnelles qui visent à réduire les coûts opérationnels et à créer un environnement plus attractif pour l'investissement privé. En outre, la Banque africaine de développement va appuyer Maurice pour créer un environnement favorable à l'agrobusiness et renforcer l'innovation et les compétences afin d'améliorer l'employabilité, notamment pour les jeunes et les femmes, et mieux préparer la main-d'œuvre aux futurs défis du travail. L'aide de la banque va soutenir Maurice à mieux diversifier son économie et à la transformer structurellement. Elle contribuera également à améliorer la compétitivité extérieure et la productivité de l'économie. Les pays du continent n'ont monétisé que 22 mégatonnes d'équivalent CO2 en 2021 pour une valeur estimée à 123 millions de dollars. Pour les experts de l'initiative pour les marchés du carbone en Afrique, ce niveau peut être multiplié par 14 sous quelques conditions. L'Afrique est en mesure de mobiliser 6 milliards de dollars par an sur les marchés volontaires du carbone d'ici 2030 si elle parvient à lever les obstacles qui freinent l'accroissement de son offre de crédit carbone, selon un rapport publié en novembre dernier par Sustainable Energy for All, une initiative lancée en 2011 par l'ONU pour doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et assurer un accès universel à des services énergétiques modernes. Ce rapport présente les objectifs de l'initiative pour les marchés du carbone en Afrique. Un groupe de 13 dirigeants, chefs d'entreprise et experts africains et internationaux qui œuvrent pour développer les marchés du carbone sur le continent africain. Lancée le 8 novembre dernier lors de la COP27, cette initiative précise de prime abord que l'un des principaux défis auxquels l'Afrique est confrontée dans le domaine de la lutte contre le dérèglement climatique consiste à déterminer comment financer la nécessaire transformation des économies du continent, d'autant plus que les financements climatiques promis par les pays riches sont encore très en décalage des objectifs fixés. Le rapport souligne dans ce cadre que la solution au manque des financements climatiques passe par l'exploitation de l'immense potentiel des marchés volontaires du carbone, qui représente une opportunité majeure pour accélérer le développement économique du continent et réduire simultanément les émissions de gaz à effet de serre. Un crédit carbone équivaut à une tonne de dioxyde de carbone ou à la quantité équivalente d'un autre gaz à effet de serre qui est réduite, séquestrée ou évitée. Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a donné son feu vert le 13 décembre 2022 à Abidjan à l'octroi d'un financement de 53,75 millions d'euros au Mali pour mettre en place le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. Le projet vise à réduire la fragilité économique en misant sur l'amélioration des chaînes de valeur de la production et la productivité agricole, outre la création de petites et moyennes industries. Il est financé grâce à des ressources du Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux préférentiel du groupe de la Banque africaine de développement, qui apporte un prêt de 34,81 millions d'euros et un don de 18,93 millions d'euros, et du gouvernement malien qui y consacre 5,26 millions d'euros. La mise en œuvre du projet va contribuer à réduire la vulnérabilité des populations face aux chocs climatiques potentiels et à accroître leur capacité à y répondre en développant des infrastructures et des aménagements résilients aux changements climatiques et sobres en carbone. Le projet va aussi aider à renforcer la résilience des populations en favorisant la diversification économique, l'innovation et une main-d'œuvre qualifiée, en améliorant la qualité des soins de santé, de l'éducation et des technologies de l'information et de la communication, et en minimisant les pertes associées au choc climatique grâce à la souscription à une assurance souveraine contre les risques de graves sécheresses. La Banque africaine de développement dispose d'une expérience avérée et d'un avantage comparatif reconnu dans ces domaines, particulièrement au Mali, où elle a contribué à financer à plusieurs opérations d'infrastructure et de développement des chaînes de valeur agricole, a déclaré Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest. L'intervention de la banque permettra de mettre en place l'écosystème entrepreneurial et les infrastructures en soutien à d'autres projets que finance la banque et va renforcer de façon optimale la couverture du pays en matière d'assurance face aux risques de catastrophes naturelles, a-t-il ajouté. En avril, Kinetico Energy avait réuni 4,78 millions de dollars en cédant à Industrial Development Corporation of South Africa 45% de sa participation dans le projet de méthane de huile de Coran. La compagnie australienne Kinetico Energy a annoncé le vendredi 16 décembre qu'elle va mobiliser environ 2,95 millions de dollars australiens, soit 1,97 millions de dollars, pour accélérer la mise en œuvre de ces projets gaziers en Afrique du Sud. Ce financement sera obtenu sous l'impulsion de FEFO Power, une institution privée sud-africaine qui investit dans le secteur de l'énergie. Concrètement, il est prévu l'émission de 32,8 millions de nouvelles actions ordinaires, libérées à un prix de 0,09 dollars par action. Il représente l'investissement le plus important réalisé à ce jour par des institutions privées sud-africaines et démontre le soutien national à la vision de la société qui est de devenir une solution énergétique majeure pour l'Afrique du Sud, a indiqué Kinetico dans un communiqué. Notons que Kinetico développe essentiellement des projets de méthane et de huile en Afrique du Sud. La compagnie y explore actuellement une zone de 7000 km². En juillet, l'entreprise a annoncé qu'elle allait entreprendre un programme pilote de mise en production de son projet de méthane de huile CBM de Coran qui a mis en évidence d'importantes réserves de combustible.